Le journal, bonsoir Hélène Philly.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Agnès Buzyn mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. L'ancienne ministre de la Santé entendue par la Cour de justice de la République pour sa gestion du tout début de la crise sanitaire. Son audition vient de se terminer, nous sommes sur place. Emmanuel Macron lui-même semble mettre un point final à la réforme des retraites. Échange ce soir au cours de son déplacement dans les Alpes de Haute-Provence. Dans l'actualité encore, l'Afghanistan et le soulagement pour 49 Français qui ont pu monter dans le deuxième avion d'évacuation depuis le départ des Américains le 31 août. Plusieurs familles rennaises dans l'avion, nous avons joint leurs proches. Les bonnes feuilles du livre d'Anne Hidalgo qui sortira la semaine prochaine, la socialiste qui devrait déclarer sa candidature à la présidentielle ce week-end. Et puis le choix culture, les 101 ans du Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Et au téléphone sonne Claire.
Eh bien au téléphone sonne, ce soir on fait le point sur la rentrée scolaire pour les enfants en situation de handicap. Ils sont de plus en plus nombreux à être scolarisés, mais de quel accompagnement bénéficient-ils? Et on va poser la question, des milliers de familles sont en effet sans solution satisfaisante. Alors, si vous êtes concerné, surtout n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.
France Inter. L'audition d'Agnès Buzyn vient donc de se terminer. Elle aura duré toute la journée. L'ex-ministre de la Santé, celle qui était aux manettes au tout début de la pandémie, était entendue par la Cour de justice de la République sur la gestion de crise du gouvernement. On vous retrouve sur place, Mathilde Vinceneux, parce que je le disais, l'audition vient de se terminer et l'ex-ministre est mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui.
Oui, il existe donc des indices graves et concordants sur sa mauvaise gestion de la crise sanitaire. Une infraction punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, c'est ce qu'elle risque avec cette mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. L'ancienne ministre de la Santé est également placée sous le statut de témoin assisté pour abstention de combattre un sinistre. Cela veut dire qu'elle est mise en cause pour ce fait, mais on ne lui reproche pas directement de n'avoir pas pris les mesures qui s'imposaient en ayant connaissance des risques. Agnès Buzyn a été entendue pendant 8 heures dans le bureau des trois juges d'instruction de la Cour de justice de la République. Elle est sortie sans faire de commentaires, visage fermé. Elle s'est rapidement engouffrée dans une voiture avec son avocat. C'est donc la première membre du gouvernement en exercice pendant la crise sanitaire à être entendue par la Cour de justice de la République. Ce ne sera sûrement pas la dernière dans cette enquête qui se base sur 16 plaintes. D'autres ministres ou anciens ministres sont visés, notamment Édouard Philippe et l'actuel ministre de la Santé, Olivier Véran.
Édouard Philippe, l'ex-premier ministre, et vous le disiez donc, Mathilde Vinceneux avec Raymond Albouy sur place, Agnès Buzyn, mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, première personnalité à être mise en cause dans ce vaste dossier.
19h03 sur France Inter, la réforme des retraites est un vrai feuilleton. Hélène Philly, Emmanuel Macron, à son tour, glisse sa petite phrase.
Une petite phrase qui semble fermer le dossier. Bonsoir Simon Le Baron, le chef de l'État, en déplacement auprès d'agriculteurs aujourd'hui dans les Alpes de Haute-Provence. Cette fois, ça semble clair.
Oui, alors Jean Castex, vous vous souvenez qu'on en parlait mercredi, avait déjà semblé remettre définitivement cette réforme des retraites à l'après 2022 en assurant que les conditions sanitaires et économiques n'étaient pas réunies pour le moment. Eh bien, Emmanuel Macron, c'est vrai, enfonce le clou en visite au rassemblement des jeunes agriculteurs dans les Alpes de Haute-Provence. Le président répond à une dame qui l'interpelle sur le sujet.
Monsieur le président, vous n'allez pas rallonger quand même là.
Alors, attention, il faut un peu tendre l'oreille, le son est assez lointain, mais le chef de l'État est clair dans ses propos. Il faut le faire en écoutant tout le monde, et puis là, on a d'autres priorités. On va faire ça quand on tombera les masques, dit le chef de l'État.
C'est vrai, faut qu'on soit intelligent collectivement.
Faut qu'on soit intelligent collectivement, conclut Emmanuel Macron, qui dit à cette dame, ne vous faites pas de billes. Alors, on avait bien compris que la réforme des retraites serait plutôt un thème de campagne, mais l'Élysée, ces derniers jours, continuait d'entretenir le suspense pour préserver l'image du président réformateur. En gros, si on ne relance pas le chantier avant la fin du quinquennat, ce sera à cause des circonstances, pas par manque de courage. Cette fois, c'est donc Emmanuel Macron lui-même qui clarifie les choses, pas lors d'une prise de parole officielle, mais tout de même. Voici donc la situation telle que nous la résume un conseiller. Si vous voulez d'une réforme des retraites, vous votez Macron en 2022. Si vous n'en voulez pas, vous votez contre lui.
Voilà qui est clair. Merci Simon Le Baron, le chef de l'État qui annonçait quelques heures plus tôt la création d'un nouveau système d'assurance récolte pour les agriculteurs. Concrètement, les agriculteurs victimes du gel, des inondations, des aléas climatiques qui se multiplient, ils pourront bénéficier d'un régime universel d'indemnisation, un système de solidarité pour les pertes les plus graves, et l'État les incitera à souscrire une assurance privée à tarif régulé, c'est-à-dire moins cher qu'à l'heure actuelle. De quoi satisfaire le président des jeunes agriculteurs, Samuel Vandel.
C'est un sujet qu'on attendait depuis longue date. Parce que le système aléa climatique, assurance aléa climatique, était à bout de souffle. C'était une perte économique pour les assureurs. C'était mal repris, mal indemnisé ou mal compris aussi par les agriculteurs. Et donc, il fallait lancer ce chantier-là. Bien sûr, bilan positif des choses avec des dates. Parce que la crainte qu'on aurait pu avoir en voyant Emmanuel Macron arrivant à Terre de Jim, c'est de dire est-ce que c'est le président ? Est-ce que c'est l'homme en campagne ? Voilà, donc on n'est pas totalement naïf. En attendant, il y a quand même 3-4 axes là, où sur lequel il prend l'engagement que ça sera très rapide avant la fin de l'année, avant la fin du quinquennat, où tout sera acté. Et donc, c'est le président de la République qui nous parle.
Samuel Vandel avec Maxence Lambrecq. Ils étaient piégés à Kaboul depuis des semaines. Des familles françaises, des proches venus rendre visite à des proches en Afghanistan et qui n'ont pas pu monter dans un avion avant le retrait des troupes américaines le 31 août dernier. Soulagement ce soir. Bonsoir Faustine Calmel.
Bonsoir.
On apprend qu'une partie d'entre elles a pu quitter le sol afghan.
49 personnes ressortissantes français et leurs proches, et parmi elles, eh bien, trois familles que Shah Ahmadi, commerçant rennais français d'origine afghane, se bat pour faire revenir depuis des semaines.
Qui sont arrivés à 8 heures à Kaboul et de là, ils sont allés à l'aéroport vers 15 heures, heure de Kaboul. Chaque étape, ils m'ont envoyé un message pour me dire que voilà, on est à l'hôtel, on est dans l'aéroport et là, le dernier message, c'est que l'avion commence à décoller.
Un avion qui va transiter par Doha au Qatar avant de rejoindre Paris, probablement ce week-end, avance Shah Ahmadi, de quoi faire renaître l'espoir.
On n'avait plus de nouvelles du tout de la part de Quai d'Orsay. On savait pas comment ça va être organisé. Ils avaient annoncé qu'ils attendaient le début des vols commerciaux pour évacuer ces personnes bloquées. Donc tout le monde se désespérait un petit peu, les familles qui sont sur place aussi. Maintenant que ça a commencé, on sait qu'il y aura d'autres vols. Et donc espérons que tout le monde peut rentrer dans les prochains jours.
On comprend qu'il en reste donc des Français. Combien sont-ils encore sur place, Faustine ?
On ne connaît pas leur nombre exact, Hélène, mais rien que du côté de ces familles rennaises, il reste au moins 41 ressortissants français ou leurs ayants droit sur place. Ces familles qui doivent désormais attendre le coup de téléphone des autorités françaises qui leur demandent de se rendre dans un hôtel de Kaboul. Une fois sur place, elles passent sous contrôle qatari, car c'est désormais Doha qui gère ces évacuations. Depuis l'entrée dans l'hôtel jusqu'au décollage des appareils de Qatar Airways. La France a d'ailleurs remercié ce soir les autorités qataries pour cette aide déterminante, signe aussi de la place que prend le Qatar dans l'Afghanistan des talibans.
Faustine Calmel, un autre soulagement ce soir pour les athlètes afghans engagés aux Jeux paralympiques. La ministre des Sports annonce qu'ils ont été accueillis en France. Les talibans qui ont donc repris le pouvoir 20 ans après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Les commémorations demain, le président américain et son épouse se rendront notamment à New York où sont tombées les tours jumelles. 13-14 spéciales aussi sur Inter avec de larges extraits de l'enquête de Grégory Phillips sur les attaques. Après 13 mois d'attente, le Liban a enfin un nouveau gouvernement. Le précédent a démissionné quelques jours après l'explosion dévastatrice du port de Beyrouth l'été dernier qui a fait plus de 200 morts et ravagé les quartiers entiers de la capitale. Les tractations politiques ont été intenses, infructueuses ces dernières mois, mais il y avait plus qu'urgence tant le pays s'enfonce dans le chaos économique. À Beyrouth, Aurélien Colli.
24 ministres, 12 chrétiens, 12 musulmans pour respecter les équilibres et un premier ministre, Najib Mikati, mania des télécoms et milliardaire qui a déjà occupé deux fois ce poste dans le passé. À peine ce gouvernement annoncé, la livre libanaise qui s'effondre face au dollar depuis 2019 a repris quelques couleurs, mais elle vaut toujours 10 fois moins qu'il y a deux ans. Tout le monde connaît la situation du pays, a résumé le Premier ministre. Pénurie de lait pour enfants, de médicaments, de carburant, d'électricité, 2/3 des Libanais dans la pauvreté et un système bancaire en faillite. Malgré ce sombre tableau, il n'est pas difficile de redresser le pays, a assuré Najib Mikati, en promettant de se tourner vers les pays arabes sunnites qui ont lâché le Liban à cause de l'influence de leur rival régional, l'Iran chiite, vers la Syrie voisine aussi de Bachar al-Assad, pourtant proche de Téhéran, reprise aussi des contacts avec le FMI et les pays occidentaux qui conditionnaient leur aide à la formation d'un gouvernement pour lancer des réformes et lutter contre la corruption. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
À l'étranger encore, le Kremlin le voulait, Gazprom l'a fait. La construction du gazoduc Nord Stream 2 est finie, un tube de plus de 1200 km sous la mer Baltique rejoignant l'Allemagne, ce que certains pays ne voient pas d'un bon œil, craignant que cela renforce la dépendance européenne aux hydrocarbures russes. Dans le Pacifique, c'est la puissance chinoise qui inquiète, qui incite en tout cas la France à coopérer plus étroitement avec l'Australie. Les deux pays négocient actuellement les termes d'un accord militaire. On pourrait bientôt voir des soldats et des navires de guerre français stationnés dans les bases militaires australiennes. Grégory Pless est à Sydney.
Des soldats et des navires de guerre français stationnés dans des bases militaires australiennes, cela pourrait devenir très vite une réalité. Les deux pays négocient actuellement les termes d'un accord militaire qui pourrait voir la France devenir le plus proche allié de l'Australie après les États-Unis. Un rapprochement qui intervient alors que le ton de la Chine, le principal partenaire commercial de l'Australie, se fait de plus en plus belliqueux. C'est d'après Peter Jennings, le directeur de l'Institut australien de politique stratégique, la raison pour laquelle Canberra tend aujourd'hui la main à Paris.
Je pense que l'une des conséquences des pressions infligées par la Chine, c'est que ça nous a poussé à nouer des relations plus étroites avec les principaux pays européens. Déjà parce qu'il représente une alternative économique, mais aussi parce que nous partageons les mêmes valeurs.
Emmanuel Macron, pour sa part, avait déjà fait savoir qu'il souhaitait amplifier l'engagement de la France dans cette partie du monde. D'ailleurs, en ce moment même, des soldats de la Légion étrangère s'entraînent dans le Queensland avec leurs homologues australiens. L'armée de l'air participera, elle, à des exercices militaires conjoints l'année prochaine et la marine fera de même en 2023 aux côtés de l'Australie, mais aussi des États-Unis. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
La fin du congrès mondial de la nature à Marseille. Plusieurs motions adoptées, dont la protection de 80% de la forêt amazonienne ou encore la protection des mammifères marins. Elles sont censées donner un cap aux États membres pour les prochaines années, sans être toutefois contraignantes. La politique en France, l'heure est aux grandes manœuvres et aux annonces de candidatures. On en est déjà à une trentaine et il va y en avoir une autre ce week-end, celle de la socialiste Anne Hidalgo, elle qui multiplie les déplacement en France depuis plusieurs mois et elle qui sort un livre, Une femme française, c'est son titre, la semaine prochaine. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Vous avez pu le lire, cet ouvrage. Alors c'est un début de programme.
Un embryon au moins, avec quelques mesures concrètes comme la multiplication par deux du salaire des enseignants, augmentation aussi de 15% de la rémunération des soignants, caissières, livreurs, la refonte du financement de la protection universelle et le reste, ce sont surtout de grands axes de réflexion. Des moyens pour l'hôpital public, le développement du réseau 5G, le ferroviaire, la politique européenne de défense et tout un volet de politique verte, la réindustrialisation de la France appuyée sur la transition écologique. Avec des ambitions internationales plus ou moins marquées, dans la lutte contre le réchauffement, il faut, écrit Anne Hidalgo, retrouver un peu du leadership perdu. La maire de Paris le répète, surtout, elle veut laisser de la place aux élus locaux. C'est d'ailleurs sur une équipe de maires proche de sa candidature qu'elle va s'appuyer pour élaborer son programme.
Antoine Gignot. Et chez les écologistes, l'info du soir, plus de 80 000 personnes se sont inscrites pour voter à la primaire. Les inscriptions seront clôturées ce dimanche. L'actualité judiciaire de cette fin de semaine, c'est évidemment le procès des attentats du 13 novembre 2015 et le début aujourd'hui de la lecture du rapport du président. Il a énuméré nom par nom chacune des personnes tuées à Saint-Denis et Paris, détaillant aussi les attaques presque minute par minute devant une salle d'audience figée. Cette lecture devait durer plus de 8 heures, une audience que nos envoyés spéciaux vous font vivre sur Twitter.
Après l'hommage national, la cérémonie intime. C'était le dernier adieu à Jean-Paul Belmondo aujourd'hui.
La famille, les proches, les amis réunis pour les obsèques de l'acteur à Saint-Germain-des-Prés. Quelques admirateurs ont même été invités à entrer dans l'église pour occuper les dernières places disponibles. Et le cercueil est sorti sous les applaudissements, de l'émotion beaucoup et une présence qui a marqué, celle d'Alain Delon, absent hier mais bien là ce matin. Aline était dans la foule d'anonymes venus rendre un dernier hommage.
Il est arrivé, il était correct, il a enlevé ses lunettes de soleil pour saluer la foule. Ah non, non, il a été très bien, très correct, alors il n'y a rien à dire. Puis son fils, avec sa béquille, bien sûr, très accompagné. Et puis son fils Anthony est arrivé, il l'a pris par le cou. Non, mais ça a été vraiment, ah oui, très bien. Merci Alain Delon. Il a été très ovationné par tous les gens qui étaient au bord de l'église Saint-Germain-des-Prés. Et même il est resté très longtemps avec la famille de Belmondo à l'extérieur.
Alain Delon qui vient dire adieu à Jean-Paul Belmondo. C'est pas rien quand même.
Mais non, c'est pas rien parce qu'ils ont à peu près le même âge à 2 ans près. Et ils ont tourné ensemble quand même. Et puis Borsalino, ça restera un film culte pour tous les deux. Pour moi, c'est une page qui s'est tournée, oui.
Une page qui se tourne, Aline, avec Delphine Evenoux, Jean-Paul Belmondo, 88 ans. Il brisait le moule des acteurs. Hommage ce matin du réalisateur Quentin Tarantino. Son interview sur France Inter à réécouter, évidemment, sur notre site franceinter.fr. Et le choix culture de la rédaction, comme chaque semaine, nous emmène aujourd'hui à Villeurbanne, dans le Rhône, pour l'anniversaire du Théâtre National Populaire. Il n'a pas pu fêter ses 100 ans l'année dernière à cause du Covid. Qu'à cela ne tienne, il célébrera de belle manière ses 101 ans, exposition, spectacle à partir de ce week-end et jusqu'à la fin du mois. L'occasion de découvrir ou redécouvrir cette grande institution théâtrale, Stéphane Capron.
Quand on pense TNP, on pense bien évidemment à Jean Villard. Mais c'est en 1920, à Paris, que le TNP est créé sous la direction de Firmin Gémier dans l'ancien palais du Trocadéro. Jean Villard hérite du TNP en 51, puis en 72, il est confié à Roger Planchon, qui dirige alors le Théâtre de la Cité à Villeurbanne.
La nouvelle orientation consiste en ceci, c'est reprendre l'idée de Gémier, tout à fait au départ du TNP, qui est le fondateur du TNP, consiste à faire un grand théâtre national ambulant, c'est-à-dire de ne pas être sur une seule ville, ni Villeurbanne, ni Paris, mais d'être un peu sur la totalité de la France, si j'ose dire.
Aujourd'hui, le TNP est dirigé par Jean Bellorini.
Je crois que ça peut ne pas nous faire du mal de savoir comment tout ça est né, pourquoi c'est arrivé, comment ça s'est construit, pourquoi ça a été défendu pendant toutes ces crises. Évidemment que le Théâtre National Populaire est né en fait de l'après-guerre et 1920 et 1951, la Renaissance. À chaque fois, c'était une nécessité de rassembler. Mais je pense, sans dire des mots qui seraient plus grands que ce que je pense quand on a été en guerre, je crois pas. Il n'empêche qu'on a besoin de nouvelles manières de se rassembler et c'est ce que permet le TNP et le théâtre.
Jean Bellorini a imaginé un centenaire du TNP faisant le pont entre les générations. Il prépare pour la fin du mois un spectacle avec de jeunes comédiens entre 12 et 20 ans à partir de textes des grandes voix du TNP.
Les célèbres trompettes du TNP de Maurice Jarre, revisitées en mode électro par le compositeur Sébastien Trouvé. C'est ce que vous entendez. Le TNP qui a 101 ans, c'est un reportage de Stéphane Capron à écouter en longueur demain dans les coulisses, dans le 6-9 du week-end, juste avant le journal de 7h.
On se lèvera pour ça. Non, mais absolument.
Et c'est aussi sur ces trompettes que je remercie l'équipe aux manettes des journaux cette semaine. Arnaud Cayet, Ludovic Asselot et Jenab Sangaré. Merci à vous.
Et merci à Hélène Philippe.